Quand il y a autant d'enjeux, que l'erreur n'est plus une option, quand son destin se joue en deux matchs, qu'il ne reste plus que quelques marches à gravir pour atteindre le sommet de l'Europe, le football devient encore plus intense. Retrouvez les demi-finales de l'UEFA Champions League avec Bayern, Real Madrid demain à 21h sur Canal Plus Foot et Dortmund, Paris SG mercredi à 21h sur Canal Plus et Canal Plus Foot. Rendez-vous sur boutique.canalplus.com.
Vous écoutez
RMC. RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
Tout pile sur RMC, l'Intégral Sport jusqu'à 20h, toujours avec Stephen Brun, évidemment. Stephen, t'aimes le vélo ?
J'aime bien le Tour de France.
Ah ouais, t'aimes bien ?
J'aime bien, surtout, j'aime bien quand il y a des têtes d'affiche et quand il y a des vraies histoires à raconter. Et en l'occurrence, là, le duel Pogacar-Vingegaard, il y a une vraie histoire à raconter.
Exactement. Dernière journée de repos pour le peloton avant les 6 dernières étapes. Ce duel magnifique qui nous attend entre le Danois Vingegaard et le Slovène Pogacar. On va en parler avec Cyril Guimard et Valentin Jamin dans une seconde. Est-ce que Vingegaard peut emmener son maillot jaune jusqu'aux Champs-Élysées ? Est-ce qu'il y aura un Français sur le podium ? Quels sont les derniers dangers du parcours ? Cyril va tout nous dire. À 19h30, un entretien avec le nouveau coach du Loup, Xavier Garbajosa, et puis à 19h45 on ira à Eugene en Oregon, évidemment retrouver Ninon Chapelle qui a terminé 11e du concours à la perche. Elle sera notre invitée. C'est reparti pour l'Intégral. Une pause plus que bienvenue d'ailleurs sur les routes du Tour de France après une journée éprouvante hier liée aux conditions évidemment et à la chaleur. Les coureurs bénéficient d'une dernière journée de repos avant les 6 dernières étapes et ce duel fantastique pour la victoire finale entre le Danois Vingegaard et le Slovène Pogacar. Les chances de podium pour Bardet voire Godu. On va vraiment se régaler jusqu'à dimanche sur RMC. On accueille donc le druide Cyril Guimard qui lui ne se repose jamais. Salut Cyril.
Oui, bonjour Benoît, bonjour Stéphane.
Ça,
Benoît,
lui,
on se repose jamais. On a de l'endurance quand on a fait plusieurs Tours de France et qu'on arrive à un âge canonique.
Tiens, c'est quoi, Cyril, ne dis rien, on va faire deviner à Stéphane. Ça fait combien de cours de Tours de France pour Cyril Guimard en tant que coureur, directeur sportif et consultant cette année ?
Non, non, on est en 2022, je vais dire 52.
Oh, pas loin, 51e. 51e Tour de France. Ah, t'es là, hein, bravo. On accueille Valentin Jamin.
T'avais revisé tes fiches.
Hein. Ouais, t'as triché.
Pourquoi non, je pense pas. J'ai fait un calcul rapide. Coureur X années, directeur sportif X années, consultant X années. Ah ouais. Tac, tu mélanges tout, ça fait 52.
Ah ouais. Et combien d'années en tant que directeur sportif ? Non, je plaisante.
Bon, allez, on arrête les frais.
Évidemment. Valentin Jamin est à tes côtés. Salut Val.
Salut messieurs, bonjour à toutes et à tous. 53e pour ma part.
Hein, ouais, bah évidemment, évidemment. Ouais. Ça, t'as quel âge, Valentin ?
J'ai un ancien. J'ai 23 ans.
Ouais, d'accord, forcément.
Oui, en fait, il a seulement une vingtaine d'étapes.
Voilà, c'est ça, exactement.
Au mieux.
Valentin, évidemment, c'est ce qui faisait l'actu lors de la dernière journée de repos lundi dernier. C'était les tests Covid. On avait peur. Il y avait une espèce de peur générale, voilà, de psychose. On avait peur d'attraper le virus. Il y a moins de craintes ces derniers jours. Et pourtant, il y a tout de même deux cas suspects. Et même si l'identité des coureurs n'a pas été révélée. Si c'est des coureurs, d'ailleurs, on ne sait pas.
Exactement. Alors oui, a priori, ce sont des coureurs, comme lors de la veille de la première journée de repos. Hier, on a testé tout le monde, test antigénique, et donc les résultats sont tombés ce matin. Personne déjà ne quitte officiellement les routes du Tour de France à cause d'un test positif. Il y a effectivement deux cas, disons, suspects. On va analyser en fait ces tests, le niveau de contagion, etc. On se rappelle notamment que Rafał Majka, le capitaine de route, j'allais dire, de l'équipe de Pogacar, avait continué la course alors qu'il avait eu un test positif, mais sa contagion était faible. Donc voilà, c'est ça qu'on va analyser pour voir si ces deux coureurs dont on n'a pas l'identité peuvent continuer. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils ne sont pas dans le top 20 du classement général. Donc on aura sûrement des nouvelles demain. Bon voilà, c'est plutôt rassurant. Il y a eu un abandon néanmoins aujourd'hui, c'est Jakob Fuglsang, le Danois, 37 ans, qui est tombé hier. Donc c'est pas le Covid, il avait une côte cassée.
Ouais, forcément une côte cassée, c'est plus dur de continuer. Parlez-nous tout de même des conditions météo. Est-ce qu'il a fait très chaud aujourd'hui partout, comme partout en France, à Carcassonne ? Du coup, une journée de repos un peu chaude pour les coureurs. Valentin ?
Oui, il a fait chaud, quasiment 40 degrés, et surtout, c'est très lourd, quoi. C'est de l'air chaud, on a du mal à respirer, donc, faut demander à Cyril qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là. J'imagine qu'on va quand même rouler. On a pu aller à un point presse de l'équipe AG2R Citroën qui partageait son hôtel avec l'équipe Trek Segafredo, et donc on a vu le Danois Mads Pedersen, vainqueur d'étape sur ce tour, qui était dans une petite piscine gonflable, là, comme pour les enfants qui récupéraient complètement dans l'eau. Donc, je pense qu'il y a eu pas mal de bains froids aussi. Chris Froome est allé, je crois même, se baigner dans l'Aude avec ses copains, là. toute son équipe. Donc voilà, je pense qu'on a surtout cherché de la fraîcheur. Il a fait lourd sur Carcassonne.
Cyril, est torse nu, il est pec saillant pendant qu'il fait l'émission ou pas?
Tu sais que Cyril, c'est le plus sportif de la bande. Hein.
Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai fait une véritable étape de repos. Ce matin, j'avais quelques obligations à l'hôtel. D'ailleurs, j'en ai fait un maximum dans ma chambre. Il y avait la clim.
Ah, bon.
D'ailleurs, je suis pas sorti de l'hôtel aujourd'hui. Et j'étais bien dans ma petite chambre à 22 degrés. Et puis, j'ai bossé de ma chambre. Donc, je sais pas s'il fait chaud dehors ou pas.
Ah, t'as bien fait. Tu t'es préservé. Mais
pour une raison très simple. C'est qu'il reste une semaine et j'ai pas envie de péter dans la dernière.
Eh oui, mais voilà l'expérience. Évidemment, 50 Tours de France.
La gestion.
Eh oui. Cyril, le meilleur conseil pour les coureurs dans ces cas-là, c'est pas de faire du home trainer dans l'hôtel? Non, c'est pas possible ça?
Si, ça peut être le cas, mais à ce moment-là, il faut avoir la capacité de descendre la température à 20 degrés. Et à ce moment-là, comme dans une période normale au printemps, vous pouvez faire du home trainer. Mais oui, à la limite, c'est mieux que d'aller faire une heure et demie sur la route par 38, 40 degrés. J'ai presque envie de dire, ce serait l'idéal.
Ouais.
Maintenant, chacun voit midi à sa porte, chacun a ses convictions, chacun pense détenir la vérité dans ce qu'il faut faire le jour d'une étape, d'une journée de repos, et à plus forte raison s'il fait chaud. Bon, bah, écoutez, on verra bien les résultats demain ou après-demain, parce qu'on a toujours un petit peu de dégâts après les journées de repos.
Juste, on fait très très attention dans les équipes. Hein. Par exemple, tous les points presse, alors c'est aussi à cause du Covid, mais étaient en visio, et le seul point presse en réel, c'était AG2R Citroën, et donc Benoît Cosnefroy s'est présenté, mais on a vraiment fait en sorte qu'il ne sorte que très très peu dehors pour qu'il ne soit pas vraiment exposé à la chaleur. Donc c'est quand même quelque chose qui est très calculé de la part des équipes.
Ouais, parce que Stephen, c'est vrai que la chaleur avec les efforts qui se multiplient, ça use au bout d'un moment ces conditions climatiques. C'est vrai qu'ils avaient été préservés, ils ont été touchés le week-end dernier. Auparavant, ça a été plutôt cool et clément au niveau de la météo, mais là c'est dur. Hein,
c'est dur. Il faut s'envoyer des étapes sous 40 degrés, des efforts de 4 heures, 4 heures et demie. Maintenant, on découvre pas. C'est pas le premier Tour de France où il y a des chaleurs extrêmes comme ça. Alors bien sûr que c'est pas facile pour les coureurs, mais je pense, Cyril, tu peux me contredire, mais je pense que les garçons sont prêts à affronter ce genre de truc-là. Alors la journée de repos, bien sûr qu'il doit y avoir beaucoup de soins, beaucoup de massages pour décontracter les jambes et repartir demain. Mais la chaleur est fait partie de l'épreuve et du Tour de France, à savoir comment quel coureur va mieux gérer, parce que la chaleur parfois, ça t'engourdit les jambes, ça t'assoupit un petit peu. D'ailleurs, la chute hier de Vingegaard, mine de rien, peut-être qu'il avait pris un petit coup de chaud et qu'il était un petit peu moins attentif, parce que tes réflexes sont diminués. Donc à voir comment ces garçons-là vont gérer la suite, et est-ce que la canicule va durer jusqu'à la fin du tour aussi.
Alors Stéphane, tu as raison, ce qui est surtout important, c'est que quand il se passe pas trop de choses, la chaleur diminue la capacité d'attention, au niveau des réflexes, et puis on est un petit peu endormi par cette chaleur. Je vais prendre une image, on devient un peu lézard à un moment, quoi. Donc c'est vrai que le moindre petit écart, le moindre petit coup de frein, et puis on va toucher la roue, on tombe par terre. Kreuzweit, l'équipier de Vingegaard, en a fait la triste expérience hier, mais ce qui était intéressant, vu de chez nous, c'est que il y a eu quelques chutes, très peu en fait, mais il y a eu 4 coureurs de la même équipe, et l'équipe Jumbo. Et là, pour moi, c'est pas quelque chose d'anodin.
Et justement, tiens, on va en parler. Allons-y sur la bataille entre favoris. On rappelle qu'on a ce magnifique duel entre Vingegaard, le Danois leader au général, et Tadej Pogacar, qui est double tenant du titre, le Slovène. Suspense qui était quasi inespéré en début de tour. On pensait tous que Pogacar, même s'il était moins équipé, était vraiment au-dessus du lot. Il y a 2 minutes 22 d'avance pour Vingegaard. Et égalité numérique dans les équipes, Cyril. Ça peut compter aussi, hein.
Oui, ça compte obligatoirement. Alors c'est vrai que 2 minutes 22, ça paraît... au jour d'aujourd'hui, il y a 20 ans, on aurait dit 2 minutes 22, c'est à portée de fusil. Aujourd'hui, 2 minutes 22, les secondes n'ont pas la même importance aujourd'hui qu'il y a 30 ou 40 ans. Et c'est vrai que 2 minutes 22, ça paraît un écart difficile, très difficile à reprendre. Alors, dire comme toujours, sauf. Mais il faut reprendre 2 minutes 22 à la pédale. Ça n'est pas évident. Alors c'est vrai que les deux équipes sont revenues à égalité au niveau des équipiers. Bon, espérant, là on dit que ce ne sont pas des coureurs qui sont dans les 20 premiers qui sont susceptibles d'être retirés de la course demain matin. Mais peut-être que ce sont des équipiers un équipier de Pogacar ou de Vingegaard, ce qui créerait un nouveau déséquilibre au niveau des forces. Pour l'instant, au niveau des équipes, les forces s'annihilent. Après, ben, vous savez, il y a la chaleur. Comment on va... enfin, là, aujourd'hui, compte tenu des conditions de course, tout est possible. Ouais. Mais on va dire, en toute logique, quand on regarde les écarts, logiquement, Vingegaard a gagné.
Ah.
Mais c'est là où le bas blesse, c'est qu'on le saura à Paris.
Évidemment. Ouais, ouais. Et ben tant mieux, parce qu'il nous attend. C'est une belle semaine qui nous attend. Et d'ailleurs, on va écouter Tadej Pogacar qui a été interviewé donc par Valentin Jamin dans l'après-midi. Lui, évidemment, son objectif, c'est tout simplement d'attaquer quasiment tous les jours. Écoutez-le.
Ils doivent défendre le maillot, je dois attaquer, c'est normal. Dans les Pyrénées, les étapes seront dures, ça va être d'homme à homme, je pense. Tout le monde sera à fond. Ce sera la course dès le début.
Ouais, attaquer, c'était le maître mot de Pogacar aujourd'hui, hein. Valentin, il n'avait que ce mot à la bouche.
Ouais, honnêtement, je pense honnêtement qu'il l'a dit une dizaine de fois. À chaque fois, on l'interrogeait. Voilà, est-ce que vous allez garder cette même stratégie, un petit peu d'harceler Vingegaard? On rappelle, il y a 2-3 jours, il était parti en tout début d'étape pour essayer de faire un écart. Et il a dit oui, j'attaquerai dès que je le pourrai. J'attaquerai s'il le faut de plus loin. J'attaquerai dans l'école. J'attaquerai au sommet. Et voilà, il a vraiment cette volonté d'attaquer. Et on lui a dit en plus, bah, il y a le contre-la-montre. La veille de l'arrivée, vous êtes censé être un petit peu meilleur que Vingegaard. En théorie, vous pouvez récupérer quelques secondes. Est-ce que vous vous fixez un écart à réduire, mais sans forcément reprendre le maillot jaune avant ce contre-la-montre? Il a dit non, moi je veux tout reprendre avant le contre-la-montre. Donc voilà, à l'attaque, c'était vraiment le maître mot. Il y a pas beaucoup plus pour résumer. Il voulait tout simplement être offensif, Tadej Pogacar.
Après, il a raison de pas tout miser sur le contre-la-montre, parce que ce qui s'est passé en 2020 avec Roglic, où il avait 57 secondes de retard, il reprendra pas 2 minutes 30 à Vingegaard sur un contre-la-montre qui est quoi, de 40
km
entre la Capelle Marival et Rocamadour, mais il est obligé de reprendre avant. Parce que Vingegaard, c'est un bon rouleur sur le contre-la-montre. Il finit à 8 secondes derrière lors du contre-la-montre individuel en ouverture au Danemark. Vingegaard, il a 8 secondes derrière Pogacar. Mmh. Il ne reprendra pas 2 minutes 30 à Vingegaard. Donc il est obligé. Il est obligé. Maintenant, il reste 8 cols hors catégorie dans les Pyrénées. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour Pogacar. Maintenant, ce qui m'inquiète, c'est qu'on parlait d'équipe à égalité des absents. Vingegaard. Il a un mutant avec lui.
Ouais, j'étais sûr que t'allais dire ça.
Il a un mutant. Il a pas n'importe quel coéquipier qui lui reste. C'est un Avengers. Ouais. Il lui reste un Avengers.
Ça vaut 2-3 coureurs.
Vaut deux, trois coureurs, Cyril. Elle est là l'avantage pour Jumbo Visma et pour Vingegaard, c'est Wout Van Aert.
Ouais, il a l'homme en vert.
Ouais, c'est ça, bah exact, c'est Hulk. Voilà. Ou Shrek, comme Hulk, vous voulez.
Hulk en vert, oui. Oui, c'est évident, à lui tout seul, il fait la moitié de l'équipe. C'est vrai que c'est un coureur absolument extraordinaire. Et aujourd'hui, il prend une importance dans cette équipe par rapport à ses qualités, sa puissance et sa capacité d'être là sur pratiquement tous les terrains.
Parfois, on se demande même ce qu'il fait, comme la dernière étape où il est parti dans l'échappée. On se dit, qu'est-ce qu'il fait? Bah, bon, on sait pas.
Voilà. Mais il est même parti sans vouloir partir, puisqu'il est passé extérieur droit, comme s'il prenait un relais, et puis tout le monde l'a regardé passer. Il n'y en a que deux qui ont pris la roue.
Et on a dû lui dire arrête-toi, qu'est-ce que tu fais?
C'est vrai en plus.
Ouais. Ah oui, non, mais il fallait qu'il s'arrête. Il n'avait rien à faire devant. Il s'est retrouvé là-bas par hasard, par erreur, je vais dire. Ouais. Donc au bout de 40 km, on lui a dit de course. On lui a dit bah écoute, ce serait bien que tu viennes auprès de Vingegaard. Bah ça y a pas porté chance puisqu'il s'est retrouvé dans la chute avec Tish Benot. Mais bon, il s'est rien fait parce que même quand il tombe, lui, il se fait rien.
Alors Cyril, dans un instant on va analyser le parcours qui nous attend avec toi et avec Valentin Jamin, et puis on dira un mot des Français, que ce soit ceux qui sont concernés par le général, hein, Romain Bardet qui est quatrième à un peu plus de 3 minutes de Vingegaard, mais surtout qui voit Geraint Thomas qui est troisième à portée de fusil, puisque Geraint Thomas a seulement 18 secondes d'avance sur Bardet, puis Gaudu qui lui est 8e, mais là aussi les écarts sont assez faibles. On espère pourquoi pas un Français sur le podium sur les Champs-Élysées, et puis on espère surtout qu'un Français va gagner une étape.
Mais tu préfères quoi toi, un Français sur le podium ou un Français qui gagne une étape?
Bonne question. Eh ben, je pense que je préfère un Français sur le podium.
Moi aussi. Ouais. Cyril?
Bah, moi les deux, hein.
Oui, bah, d'accord.
Ah, okay, c'est pas le concept que tu préfères, Cyril.
Alors, Stéphane, pour information, il faut savoir qu'au dernier contre-la-montre du Tour de France l'an dernier, Vingegaard avait repris pratiquement une trentaine de secondes à Pogacar.
Voilà. Et bien justement, tu vas nous dire quel écart tu attends entre les deux coureurs sur le contre-la-montre qui aura lieu évidemment dans quelques jours, ce contre-la-montre de 40 km. Et puis donc on parle des Français dans un instant dans l'Intégral Sport avec Stéphane Brun, avec Valentin Germain et avec Cyril Guimard. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
10h sur RMC l'Intégral Sport avec Stéphane Brun, avec Cyril Guimard, le druide évidemment de la bande de l'Intégral Tour, et puis Valentin Jamin. Tous les deux sont à Carcassonne pour cette journée de repos pour les coureurs. Les choses sérieuses reprennent demain avec la 16e étape entre Carcassonne et Foix. Nous sommes, ça y est, dans les Pyrénées. Trois étapes de montagne qui attendent les coureurs. Justement, on parlait de ce duel entre Vingegaard et Pogacar pour la victoire finale. Question qu'on voulait te poser, donc Cyril, on sait qu'il y aura ces trois étapes de montagne et puis ensuite ce contre-la-montre individuel samedi, veille d'arrivée sur les Champs-Élysées de contre-la-montre de 40 km. Quel écart peut-il y avoir entre Pogacar et Vingegaard, à ton avis? Évidemment, on n'a pas les états de forme de l'un et de l'autre, mais à ton avis, quel peut être l'écart maximal entre Vingegaard et Pogacar ce jour-là?
Bah, compte tenu de ce qu'on a pu remarquer depuis deux ou trois ans sur les évolutions de ces deux coureurs et surtout de Vingegaard, c'est que quand on reprend tous ces contre-la-montre sur deux ou trois ans et qu'on reprend ses résultats, il est en perpétuelle progression. Et on peut dire qu'aujourd'hui, les deux hommes, au départ de la dernière étape, dans des conditions normales de course,
oui,
normale,
oui, pas de chute, bien, pas de tout ça. Ouais.
Aujourd'hui, c'est kiff-kiff, hein.
Ah, donc, donc c'est pas réel avantage à Pogacar alors. Ah ouais.
Non, c'est pas réel. Surtout que Vingegaard n'a jamais été aussi fort qu'aujourd'hui.
Ah ouais, c'est sûr. Et puis là, il n'a jamais été aussi prêt à gagner le Tour de France aussi.
Ah bah oui. Et effectivement, je dirais que Pogacar n'a jamais été aussi prêt de le perdre.
Aussi.
aussi. Non, là, c'est vraiment la personne. Alors, effectivement, au niveau de l'affect, on peut dire je préfère que ou réagir comme ça, mais de façon objective. S'ils sont dans le même temps au départ du contre-la-montre, personne peut dire lequel des deux l'emportera.
On a bien compris l'avis de Cyril. 2 minutes 22 d'écart tout de même, c'est un écart conséquent.
Donc il faut quand même les reprendre avant.
Ouais, c'est ça, t'as raison. Donc toi aussi, Stephen, t'es du même avis. Je pense que Vingegaard a quand même.
Écoute, c'est compliqué de se mouiller. C'est compliqué de se mouiller, Benoît, parce que avant que le Tour de France commence, on a fait maintes et maintes débats sur qui peut battre Pogacar, comment Pogacar peut perdre le Tour. Et ben il l'a perdu sur 20 minutes. Sur 20 minutes.
Le col du Granon
sur 20 minutes. Ouais. Était pas à l'abri que cette défaillance de 20 minutes elle puisse arriver aussi à Vingegaard parce que Pogacar va lui mettre une pression. Alors de ce qu'on a vu, la pression pour l'instant à Vingegaard, tranquille, la pression pour l'instant il la met dans le vert, il résiste à tous les départs de
Pogacar.
Il prend la route Pogacar tranquille. On n'a pas vu sur son body language, on n'a pas vu une seule fois Vingegaard être en difficulté, faire la grimace, être dans le dur. Mais ça peut arriver parce qu'on démarre une troisième semaine de Tour.
La chaleur.
La chaleur, il commence à y en avoir dans les pattes. Et puis il peut y avoir un fait de course, une petite fringale, un truc comme. Donc c'est très compliqué de se mouiller. Maintenant, si les deux restent à leur forme, il se passe rien. S'ils arrivent au contre la montre et que Vingegaard a encore 2 minutes d'avance, faudra juste le serrer à la main, lui dire bravo mon Danois, t'as gagné le Tour de France.
Pour toi, Cyril, oui, la journée la plus dangereuse ou la plus spectaculaire qui nous attend sur la semaine qui arrive, c'est celle de jeudi, cette étape entre Lourdes et Hautacam.
Non, c'est Peyragudes.
Peyragudes. Donc ça sera même
jeudi, c'est Saint-Gaudens Peyragudes.
Ouais. Ouais. Avec le col d'Aspin en 6 ans, Val d'Huron et l'arrivée à Peyragudes. Et puis Hautacam, j'ai envie de dire, mettons-la de côté, parce qu'on ne sait pas ce qui se passera dans cette étape, qu'on ne saura pas quelles sont les positions à l'issue de cette étape de Peyragudes, et que c'est le résultat à Peyragudes qui va déterminer ce qui pourra se passer à Hautacam. Et si... J'ai bien dit. Et s'il y a besoin qu'il se passe quelque chose, peut-être que l'affaire sera déjà conclue à ce moment-là. Donc moi, je vais m'arrêter aux deux premières étapes de montagne. Ma boule de cristal, elle n'est pas connectée à Hautacam, donc je peux pas avoir d'information. Il y a l'étape de Foix demain.
Ouais.
Mais l'étape de Foix, faut quand même savoir qu'elle fait, il y aura 113 km avant l'attaque du port de Lers. Donc vraisemblablement, il va y avoir
Ah, on va retrouver Cyril. Ouais,
il a fait une crise, fait une crise de foi.
Excellent. C'est bon ça. 113 km avant la première difficulté de la journée. Il y aura deux principales difficultés d'ailleurs hein, demain entre Carcassonne et Foix. Mais on l'a bien compris d'après Cyril. A priori, c'est surtout mercredi que les choses sérieuses vont redémarrer entre Saint-Gaudens et Saint-Pierre.
Je ne sais pas si Cyril nous entend. Cyril, il ne peut plus parler. Moi, j'ai une petite question.
Oui, je vous entends.
J'ai une petite question.
Peut-être qu'il veut plus te parler, mais
oui, il veut parler. Ouais. Cyril, parle-moi de cette équipe Ineos avec Garen Thomas qui est troisième, Yates qui doit être cinquième avec Pidcock. Et cette équipe, elle cherche quoi en fait?
Il y a trop de chefs.
Est-ce qu'elle cherche à être sur un podium et mettre Thomas troisième place ou à un moment donné, il y a quand même une belle armada Ineos, ils vont dire bon, est-ce qu'on peut tenter quelque chose?
Non. Bon, ils peuvent tenter, mais bon, ils ont pas les chevaux pour ça. Hein. Je crois que leur objectif, parce qu'on sait, à quel niveau se situe pratiquement chaque coureur, sauf défaillant, bien sûr. Mais aujourd'hui, Ineos n'a pas les coureurs pour aller chercher la gagne face à Vingegaard ou Pogacar. Alors un des deux peut sauter, mais ça m'étonnerait que les deux sautent. Bon, mais pour la place sur le podium, c'est leur objectif. En terminant sur le podium, ils sauvent leur tour. Mais Thomas, il a les qualités parce qu'en plus il va très très bien
faire un bon tour là,
mais il fait un très très bon tour, exact. Oui. Yates c'est trop court et Pidcock il n'est pas encore mûr pour aller jouer, puis il est trop loin de toute façon.
Oui. Il s'est
donc
offert une magnifique
pour le podium,
victoire,
hein, leur objectif c'est d'aller chercher le podium et ils vont pas se mouiller à prendre des risques de lancer Geraint Thomas qui peut exploser derrière et à ce moment-là ce serait bien pour Bardet.
Bardet bah oui. Alors Cyril, justement, voilà. Est-ce qu'on y croit pour Bardet un podium sur ce Tour de France? On le répète, seulement 18 secondes d'écart entre Geraint Thomas 3e et Bardet 4e. Est-ce que Romain a de réelles chances de terminer dans les 3 premiers?
Oui, 18 secondes, oui. Sauf que Geraint Thomas va beaucoup mieux contre la montre que Romain Bardet. Sur les 40 kilomètres, Bardet, il risque quand même de perdre au minimum 2 minutes sur Geraint Thomas, même s'il a progressé.
Ah, il va perdre 2 minutes sur contre la montre.
Voilà, on ne devient pas Jacques Anquetil ou Bernard Hinault parce qu'on a claqué des doigts, quoi. Il y a des qualités qu'il n'a pas pour réaliser de grandes performances. Il arrive quelquefois à limiter, mais par rapport à Thomas, hors des cas, il va perdre 1 minute 30. Ce qui voudrait donc dire qu'il faut qu'il reprenne avant le contre-la-montre, on va dire 2 minutes à Geraint Thomas avant le contre-la-montre pour aller chercher cette place sur le podium. Le combat est le même pour David Godu, qui lui est à 1:41 de Geraint Thomas. Là, c'est encore plus compliqué, même si David a bien progressé ces derniers temps, mais de toute façon, il sera lui aussi à plus d'une minute de Geraint Thomas.
En fait, Cyril, il est optimiste pour Bardet, mais il nous vend quand même le fait que Bardet va sûrement finir quatrième.
Mais il est optimiste mais réaliste.
Oui.
Voilà, c'est ça, en fait. C'est une vraie analyse. Voilà,
ben moi je suis pas un matheux, mais je sais compter.
Voilà, et tu vends pas du rêve. T'as bien raison, Cyril. Est-ce qu'on aura une victoire d'étape française? Est-ce qu'on peut y croire au moins, Cyril? On a toujours pas de tricolores qui ont levé les bras, justement, depuis le début de ce Tour de France. Est-ce qu'il y aura une occasion ou deux? Est-ce qu'un Français peut nous surprendre, notamment là dans les Pyrénées, sur les 3 jours qui viennent?
Alors là aussi, je ne vais pas vendre du rêve.
Voilà.
La plus grande chance pour qu'un Français gagne une étape, c'est demain, parce qu'il y a 113 km avant l'attaque du Port de l'Hers.
Donc ça peut partir.
Donc il faut qu'il y ait un coup qui parte ou on est des. Mais il faut qu'on ait dans cette échappée un Français qui soit plus fort.
Ça, c'est vrai.
Que les tous ceux qui la composent. Or, jusqu'à présent, à chaque fois qu'il y a un coup qui est parti, et entre autres avec Thibaut Pinot, eh bien, Thibaut Pinot n'était pas le plus fort du groupe. Donc, il fait 1x4, et puis 2 et 3 amendes, parce qu'il n'avait pas les jambes pour être le plus fort du groupe. Quand vous partez dans un coup comme ça, hein, qui va partir vraisemblablement au bout de 3/4 d'heure, 1 heure, voire un peu plus, parce que ça va ferrailler tant qu'un coup d'une vingtaine n'est pas parti. Mais après, encore faut-il être le meilleur du groupe.
Ouais.
Or, on s'est rendu compte que jusqu'à aujourd'hui.
Hier, on était à 400 mètres. Cyril, on était à 400 mètres d'avoir une victoire française hier.
Oui, mais hier, on était dans une autre configuration de course qui n'avait rien à voir avec un coup parti au départ.
Voilà.
Puisque là, c'est un coup qui part en force dans le final. Mais bon, derrière, on le sait très bien, les équipes de sprinters, et vous le voyez tout au long de l'année, elles sont capables de régler pour aller chercher quelqu'un à 500 mètres de la ligne. Là, ils sont un petit peu trompés, ils sont allés le chercher qu'à 450. mais attendez, les équipiers, attends, ils ont en visu dans le final
les oreillettes
échappées. Et puis il y a les manipulateurs d'oreillettes qui vous disent attention, là-bas ils roulent à 52, voilà. Roulez à 54. Attendez, tout est calculé, c'est vrai. Et c'est pas la première fois. Mais ça aurait pu le faire, comme je dis, ça aurait pu le faire. Il suffit qu'il y ait un accrochage, je sais pas moi, entre deux équipiers d'une équipe de sprinter à 2 ou 3 kilomètres de l'arrivée. Ça se regarde un peu, on perd 10 ou 15 secondes et paf, on va la chercher. Mais bon, faut pas rêver non plus tout le temps, quoi.
Ok. Merci Cyril qui nous a plombé le moral, puisque tout simplement Vingegaard va gagner le Tour facilement.
Je ne vends pas de rêve.
Il y aura pas de victoire française et Bardet va être éjecté du top 5.
Ce n'est pas ce que j'ai dit.
Je vous attends sur RMC.
Ce n'est pas ce que j'ai dit, hein.
Mais c'est ce que tu penses.
On peut rêver, quoi.
Voilà, c'est ça. Bon, on espère quand même qu'on va se régaler jusqu'au bout avec ce duel magnifique entre Vingegaard et Pogacar. Merci Cyril d'avoir été là. À demain, en pleine forme évidemment pour cette 16e étape entre Carcassonne et Foix. Merci Valentin.
Pas de problème, je suis resté dans ma chambre froide toute la journée.
Super.
Demain, je suis au top.
Tu as bien fait. Merci Cyril.
Dépêche-toi parce que Christophe Cessieux est au buffet déjà. Donc il n'a plus resté grand-chose.
Voilà, on espère qu'il s'est protégé de la chaleur, celui-là aussi, vu que c'est une personne âgée. On l'espère et on l'embrasse. Merci Valentin aussi. Toi, tu rentres bien sur Paris. Et Stephen, nous, dans un instant, on file à Lyon. On va retrouver Xavier Garbajosa qui emménage à Lyon. Et c'est vrai d'ailleurs, il est en train d'emménager dans sa nouvelle maison puisqu'il prend la succession de Pierre Mignoni à la tête du Loup, avec pour objectif de retrouver les phases finales du top 14. A tout de suite sur RMC.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
19h30 sur RMC, toujours avec Stephen Brun. Dans un quart d'heure, on ira à Eugene, Oregon. Ça te parle, toi, Eugene, hein, quand même?
Alors, c'est pas trop loin de Portland. Donc, Portland me parle, l'Oregon me parle, l'équipe NBA, Portland Trail Blazers, mais Eugene, très réputé pour l'athlétisme.
Et Eugene, là où est née la marque?
Nike.
Évidemment.
Eh oui.
Et voilà.
Toutes les usines sont là-bas.
Voilà, c'est ça. Exactement. Donc on pourra y aller retrouver Ninon Chapelle pour les championnats du monde d'athlétisme. On fera d'ailleurs un point sur tout ce qui s'est passé la nuit dernière avec Pierre Thévenet. Puis on voudra le programme de ce soir également. Malheureusement, pas de Français en finale du 110 mètres haies. On avait 3 chances.
Ouais, 0 sur 3.
3 éliminés en demi-finale, notamment Sacha Zoya, qui est le grand espoir tricolore sur la distance. Et ben, on espère que ça ira mieux aux Europes à Munich. À la mi-août. 19h31, dans un instant, on va accueillir Xavier Garbajosa également, l'entraîneur du Loup. Et puis on rappelle aussi Stephen, parce que tu es avec nous, qu'il y aura un peu de basket également à la fin du mois de juillet, puisqu'il y aura un rassemblement de l'équipe de France de basket pour préparer l'Euro qui démarrera le 1er septembre. Voilà, ça, c'est un grand moment qui va arriver aussi pour les Bleus. Il y aura quelques absents, Nico Batum ne sera pas là par exemple, mais une belle échéance à la rentrée pour les basketteurs français.
Une très très belle échéance, où il faudra confirmer le titre de vice-champion olympique acquis à Tokyo l'été dernier. On parle uniquement de médaille d'or, on parle uniquement d'objectif d'être champion d'Europe. Alors oui, il manque Nicolas Batum, oui, il manque Nando De Colo, mais cette équipe-là, elle est monstrueuse. Il y a du Evan Fournier, il y a du Rudy Gobert qui est là, Victor Wembanyama, la jeune pépite qui a rejoint Boulogne, va faire la préparation fin juillet, va être dans le groupe France. Donc c'est une échéance très très importante pour nous emmener ensuite, parce qu'il y a 3 grosses compétitions à la suite. Il y a l'Euro cet été, il y a la Coupe du Monde 2023 et il y a bien sûr Paris 2024, où là aussi, eh ben, on a été vice-champion olympique en 2020, et eh bien on espère être champion olympique en 2024 chez nous à Paris.
Avec l'info basket de ce début d'été, c'est quand même, ça y est, la naturalisation officielle de Joel Embiid, hein, qui était meilleur marqueur de la NBA, star
deuxième au titre de MVP.
Sixers, deuxième au titre de MVP, qui pourrait intégrer l'équipe de France. Pas à l'Euro.
Il est sélectionnable. Hein. Alors, pas à l'Euro, puisqu'il s'est fait opérer. Voilà. Il s'est fait opérer, c'était du pouce. Il a eu pas mal de blessures sur la fin de saison avec son équipe NBA, l'équipe de Philadelphie. Il est sélectionnable par Vincent Collet. Il est français. Il a un passeport français. Il a un passeport camerounais. Il a un passeport américain. Donc, à lui de choisir.
S'il a fait les démarches pour la France et qu'il veut jouer avec les Bleus.
Je pense. Maintenant, je vois qu'il y a certains joueurs qui étaient un petit peu réticents au début, qui aujourd'hui, commencent à s'ouvrir à l'arrivée de Joël Embiid, qui c'est très excitant Benoît, de voir un garçon
ça
comme
ça. Ça fait rêver, Embiid
bien Gobert. Sûr, Embiid Gobert dans la raquette, ça fait rêver, et ça peut faire cauchemarder certaines équipes qui vont affronter l'équipe de France. Donc à voir si ça sera la Coupe du Monde l'année prochaine ou pour uniquement le Paris 2024. Maintenant, si les langues commencent à dire du bien de l'arrivée de Joël Embiid, c'est parce que ils ont compris que maintenant il était sélectionnable et qu'il allait éventuellement faire partie de la sélection. Donc ça aurait été je pense pas audacieux de commencer à envoyer des tacles en disant c'est scandaleux, parce que si ce garçon doit faire partie de l'équipe, il faut l'accueillir et faire en sorte que ben il s'implique dans cette équipe-là, qu'il accepte les concepts de jeu de cette équipe de France et du sélectionneur Vincent Collet, pour permettre à cette équipe-là de gravir la seule marche qui nous manque, c'est-à-dire battre les Américains, parce qu'on D'accord. retrouvera vraisemblablement les Américains à Paris 2024 comme ultra favoris. Donc elle est là, il nous manque cette marche-là, et battre les Américains.
On en parlera dans la semaine évidemment de basket. On essaiera notamment d'avoir Eli Okobo, lui aussi joueur de l'équipe de France et oui. joueur de l'ASVEL, qui a donné le titre à l'ASVEL, qui a signé à Monaco. Voilà, il a signé chez le concurrent. Donc Eli Okobo sera avec nous dans les jours qui viennent, dans la semaine, dans l'Intégral Sport. 19h34 sur RMC, une nouvelle ère qui s'ouvre à Lyon. Stephen, après 7 années de bons et loyaux services, Pierre Mignoni est parti rejoindre Toulon, évidemment sa ville natale. Il part sur une 9e place en top 14 avec le Loup et une victoire en challenge européen. Les rênes de l'équipe ont été confiées par Yann Roubert à Xavier Garbajosa, qui est en direct avec nous. Salut Xavier.
Bonsoir messieurs.
Bonsoir.
Merci d'être là, parce que vous êtes en plein déménagement. C'est un peu compliqué là. On s'installe à Lyon là, dans la famille Garbajosa.
C'est un peu compliqué. Vous tombez mal. Hein. Bon, je fais l'effort de vous répondre.
C'est gentil. Parlez-nous de votre état d'esprit. Une nouvelle aventure pour vous. Vous retrouvez évidemment le coaching depuis la fin de l'aventure à Montpellier en janvier 2021, dans un beau projet et un club bien structuré du top 14, hein, Xavier.
Oui. Alors mon état d'esprit personnel, vous l'avez compris, hein, vous l'avez énuméré. Depuis janvier 2021, j'ai trippé une impatience, donc je suis ravi déjà de pouvoir retrouver un club. Et un club comme le Loup, c'était une opportunité exceptionnelle pour moi, hein, personnellement, mais aussi par rapport au club. Donc aujourd'hui, je me languissais de reprendre ces choses de fait depuis deux jours. Voilà, on est rentré de plein pied dans la préparation, qui était plutôt intéressante.
Est-ce que c'est dur de succéder à quelqu'un qui est resté 7 années sur le banc d'un même club, parce que forcément, il y a eu des habitudes qui se sont créées entre Pierre Mignoni et les joueurs. Est-ce qu'on s'appuie sur ce qui a été fait auparavant? Est-ce qu'on amène petit à petit sa touche? C'est quoi votre méthode? Quelle va être la méthode appliquer dans les semaines à venir?
Bah, c'est dur. Est-ce que c'est dur de succéder à Pierre? Bah, il y a toujours eu une part de comment dire, non pas de pression, mais effectivement, Pierre est Pierre et moi je suis différent. Donc on a des personnalités différentes. Pierre, pendant 7 ans, a œuvré à mettre le club là où il est aujourd'hui. Donc déjà, par rapport à ça, il y a des bases et des fondations qui sont solides. Par expérience de ma dernière expérience, je dois m'enrichir dans le fait que il faut aussi prendre un peu de temps de pouvoir analyser et observer le contexte et l'environnement dans lequel on va évoluer pour pouvoir y amener des touches qui soient des plus-values et non pas vouloir tout changer de suite et se mettre en difficulté. Donc aujourd'hui, c'est plutôt une phase d'observation. Je découvre un groupe, je découvre un staff, je découvre un fonctionnement qui me va bien, qui me sied bien, de prime abord, qui m'intéresse et qui me plaît. Voilà, donc aujourd'hui, succéder à Pierre, c'est surtout prolonger le travail qui a été fait par la famille Ginon, par le président Roubert, par Pierre Mignoni pendant ces temps, vous l'avez cité. C'est de continuer l'aventure, c'est de continuer à développer ce club-là, parce qu'il est sur une pente progressive depuis quelques années. Mmh. Voilà, aujourd'hui, les bases sont hyper solides, hyper saines. Maintenant, à nous de continuer avec un staff, parce qu'encore une fois, hein, ça, c'est pas la réussite d'un seul homme, mais encore c'est important aussi de citer quand même l'ensemble d'un staff. Il y a tellement de choses à faire que chacun amène sa pierre à l'édifice pour élever encore un peu plus haut ce club.
19h37 sur RMC, vous écoutez l'Intégral Sport. On est en direct avec Xavier Garbajosa, le nouveau coach du Loup, Stephen.
Ouais, Xavier, bonsoir. On a appris l'intronisation, s'est faite début février. Comment ça se passe? Vous l'avez dit, vous avez faim, vous avez envie de retrouver le terrain. Il se passe quoi pendant 5 mois avant la reprise avec le Loup? Est-ce que vous visionnez des matchs du Loup? Vous préparez vos schémas de jeu? Qu'est-ce qui se passe?
Ouais, bon, alors j'ai eu la chance quand même de rester dans le monde un peu de rugby grâce à Canal Plus, pour lequel j'ai pris beaucoup de plaisir. Ça m'a permis de pouvoir analyser ou en tout cas suivre le championnat au plus près avec le commentaire des matchs. Bien entendu qu'une fois que le projet du Loup s'est ouvert, c'était en février ou mars, je me suis intéressé un peu plus à l'équipe, à regarder, à analyser, à observer certains comportements et projets. Mais encore une fois, le choix du Loup, au-delà de ce que représente ce club, le projet de jeu mis en place par Pierre, ce jeu de mouvement, m'intéresse. Les joueurs qui composent l'équipe sont aussi portés sur un jeu d'attaque et qui me plaît bien, de par mon ADN et de par mon éducation toulousaine. Donc il y avait quand même un terreau fertile. Maintenant, il y a beaucoup de choses pour ma part à amener, à adapter, à faire évoluer pour que demain, effectivement, la performance soit au rendez-vous. On l'avait dit, on a fini 9e l'année dernière, malgré un joli titre décroché de challenge européen. voilà, aujourd'hui, un club comme le Loup a de l'ambition de vouloir finir dans les six premiers.
C'est l'objectif, évidemment, les phases finales, mais on a vu un championnat très, très équilibré, très concurrentiel, évidemment. On a vu cette finale entre Montpellier et Castres qui ont terminé les deux premiers aux deux premières places de la saison régulière. C'est la place du Loup de terminer dans le top 6, Xavier, et si vous ne l'êtes pas dès cette saison, ce sera un regret.
Je ne sais pas si c'est la place, ça serait prétentieux, dire que c'est la place du Loup. C'est l'ambition du club, mais c'est l'ambition des 11 ou 12 clubs de se qualifier. Voilà, je pense qu'aujourd'hui il faut avoir aussi peut-être un petit peu audacieux. Les objectifs ou en tout cas de la direction et du club sont clairs, hein, c'est de se qualifier. Ça fait deux ans qu'on ne se qualifie pas. L'objectif sportif, ça sera d'atteindre les phases finales. Maintenant, de savoir si on n'y arrive pas, si c'est un échec, il faut avoir continué quand même à travailler. C'est la première année, on va continuer à consolider le club, continuer à se renforcer, continuer à développer le projet de formation. Voilà, parce que c'est encore une fois un projet de club, c'est pas le projet de jeu d'un seul homme.
Xavier, une dernière petite question. La saison qui arrive, c'est une année de Coupe du Monde avec le 15 de France. Vous avez quelques internationaux ou des garçons qui peuvent prétendre faire partie de cette équipe-là. Comment on gère ces garçons-là qui, eux, en plus du projet collectif, ont peut-être aussi un projet individuel, à savoir être bon, taper dans l'œil de Galtier pour jouer cette Coupe du Monde?
Alors, comment on le gère? Ben, je crois que chacun dans sa vie a des projets personnels. Aujourd'hui, les internationaux qui aspirent à jouer cette Coupe du Monde vont devoir jouer leur meilleur rugby. Et le meilleur moyen de se mettre en évidence, c'est de performer avec le Loup. Plus le Loup, comme je l'aurais dit, plus le Loup sera en haut de l'affiche, plus le Loup gagnera des matchs, plus on sera dans une quête de performance, plus les joueurs seront valorisés. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Aller dans une Coupe du Monde et gagner une place dans une Coupe du Monde, ça ne passera inexorablement que par des bonnes prestations avec son club. Donc les internationaux qui sont chez nous en ont conscience, et ce sont des garçons qui aiment par-dessus tout leur club. Ils ont conscience d'abord de défendre, que ce sont d'abord des joueurs du Loup, ça c'est une première chose, et ils savent très bien qu'aujourd'hui, monter dans le train de la Coupe du Monde ne passera que par des bonnes performances avec leur club.
Et puis Xavier, juste une question personnelle pour terminer. C'est vrai que je le disais, l'aventure avec Montpellier, c'était un peu mal terminé pour vous en janvier 2021. Vous avez vu ce club du MHR être sacré champion de France pour la première fois de son histoire il y a quelques semaines après cette victoire contre Castres en finale. Comment vous l'avez vécu à titre personnel, justement, cette épopée montpelliéraine, déjà cette demi-finale et ensuite cette finale remportée par les Montpelliérains, des joueurs que vous connaissez en plus?
Ben, paradoxalement, c'était pas tellement une surprise pour moi, puisque quand je suis arrivé dans ce projet, on a quand même senti un terreau où il y avait, on a mis en place une formation en faisant revenir des garçons comme Johan Coupeau, pour lesquels nous sommes allés chercher des jeunes à fort potentiel, comme Louis Fourcent, etc. Donc il y avait quand même quelque chose, il y avait un vrai projet. Maintenant, la temporalité, je la maîtrisais pas. Ça a été, pour moi, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Il y a plein de choses pour lesquelles aujourd'hui qui me finalement vont sûrement m'apporter dans ma façon d'être et ma façon de faire aujourd'hui. Maintenant, voir le MHR devenir champion à la fin de l'année, ça n'a pas été une réelle surprise. Tant ce club, pour moi, avait de l'ambition, tant ce club avait des ressources. Il fallait simplement pouvoir avoir un alignement des planètes avec un bon recrutement, avec une jeunesse qui venait amener une fraîcheur, avec des joueurs cadres qui ont été au rendez-vous. Voilà, donc chapeau à eux, c'était une belle réussite pour un club qui cherchait ce titre depuis plusieurs années maintenant, avec beaucoup d'ambition et beaucoup d'investissement. Ils y sont parvenus, et puis sur la saison, franchement, il n'y a pas grand-chose à dire, tant ils ont dominé quand même, ils ont ce sentiment de puissance. On a senti quand même une équipe de Montpellier, même tout le monde se posait la question jusqu'où ils pourraient aller. Je crois qu'on a notre réponse, et c'est vrai qu'ils ont fait une saison quasi parfaite.
Xavier, avant de vous laisser à vos cartons, vous aimez le rugby, mais est-ce que vous aimez d'autres sports? Est-ce qu'on va avoir la chance de vous voir à l'Astrobal pour voir l'Asvel, ou au Groupama Stadium pour voir l'OL? Même si je sais qu'il y a beaucoup de travail.
C'est une ville de sport. Hein, ouais,
écoutez, non, mais en plus, le Loup est une ville magnifique que je découvre, franchement. Pour ceux qui ne connaissent pas le Lyon, venez faire un tour, c'est une ville magnifique. Effectivement, il y a une offre sportive intéressante autour. Donc oui, j'irai à l'Asvel voir un match de basket. Oui, j'irai au Groupama Stadium pour aller voir un match de foot. Parce que quand on aime le sport, on aime toutes sortes de sports, et notamment, surtout pour nous, le sport collectif. Et c'est toujours intéressant de pouvoir s'intégrer dans notre environnement lyonnais.
Voilà, bah on vous présentera Peter Boss et TJ Parker.
Exactement, avec grand plaisir.
Ça, vous pouvez faire des déjeuners ensemble.
Tu peux présenter TJ Parker, Peter Boss, non, un peu moins.
Moi, je passerai par Coach Courbis, qui est son ami.
Exactement.
Merci Xavier. Bonne soirée à vous. Bonne préparation. Et Lyon qui lancera son championnat de top 14 la première journée. Ce sera le samedi 3 septembre sur la pelouse de Brive. Stephen, on rappelle juste l'info rugby de la journée. C'est la fin de carrière, la retraite pour Wesley Fofana, évidemment, international français, 34 ans, qui a passé 15 saisons à l'ASM Clermont. Voilà, il a été beaucoup freiné par des blessures. Il annonce la fin de sa carrière. Wesley Fofana, qu'on tentera d'avoir également dans la semaine dans l'Intégral Sport. 19h43 dans un instant, direction Eugene, l'Oregon, pour les championnats du monde d'athlétisme. On va récapituler ce qui s'est passé la nuit dernière avec Pierre Thévenet, puis on aura une invitée, Ninon Chapelle, la perchiste française qui a terminé 11e du concours hier. À tout de suite.
RMC Intégral Sport.
Benoît Boutron.
19h47 sur RMC, toujours avec Stephen Brun, l'Intégral Sport jusqu'à 20h. Vous retrouvez ensuite l'after avec Nicolas Jamin autour de ce match entre la France et l'Islande. Évidemment, c'est le dernier match de poule des Françaises à l'Euro féminin. La France est déjà qualifiée et assurée de terminer première de son groupe. Les Françaises qui affronteront les Pays-Bas en quart de finale. À 19h47, on file à Eugene en Oregon, retrouver Ninon Chapelle qui est en direct avec nous. Salut Ninon. Est-ce que tu es là, Ninon? Est-ce que tu m'entends?
Ah oui, pardon, je suis là.
Pas de problème. Sois la bienvenue, Ninon, qui a terminé 11e du concours du saut à la perche. On pourra y revenir dans un instant. Tu vas nous donner tes sensations, justement, comment tu as vécu ce concours. Ninon, tu restes avec nous, on y revient dans un instant. On accueille également Pierre Thévenet, journaliste RMC Sport avec nous. Salut Pierre.
Salut.
Pierre, c'est l'autre micro. Voilà, exactement. Il est bien là, Pierre Thévenet.
C'est l'autre bouton, mais c'est bien ce micro-là. Voilà. Oui, c'est exactement ça, Pierre.
C'est pas très radiophonique.
C'est normal.
Mais Pierre a quand même bien bossé puisqu'il va nous rappeler tout ce qui s'est passé la nuit dernière justement à Eugene en Oregon. On avait un espoir, c'était le 110 mètres haies. On avait trois Français et qui étaient compétitifs. Malheureusement, aucun d'entre eux n'a réussi à se qualifier pour la finale.
Hein. Ouais, une grosse déception au 110 mètres haies. Aucun Français qualifié. Pascal Martineau-Lagarde qui avait été médaillé de bronze à Doha en 2019. Il termine quatrième de sa demi-finale et Jusqu'au Matei cinquième malgré un beau chrono de 13 secondes 25. Et la jeune pépite Sacha Zoya, dont on attendait beaucoup pour ses premiers championnats du monde, il termine également cinquième de sa demi-finale après avoir buté sur la première haie. L'athlète de 20 ans né en Australie était forcément déçu après sa course qu'il a décrit comme une des plus ratées de sa carrière.
Je pense que c'était plus dans ma tête ou le stress, pas de stress de la compétition, mais le stress en train de dire ouais, je suis pas à mon niveau top top. La prochaine fois, j'ai besoin de focuser. Mind over body, le corps, même si le corps va pas bien, tu gères la course et tu fais bien. Tout le monde sait que dans les haies, si tu manges ta première, c'est chaud à faire les autres, les derniers qui suivent. Et c'est ce qui m'est arrivé aujourd'hui, comme j'ai dit hier. Tout peut arriver sur un 0-6, t'as 10 barrières à passer. Si tu les passes pas bien, si tu les touches, ça va te descendre de plus en plus en plus en plus. Ça m'est arrivé aujourd'hui. C'est la vie, c'est les haies. Hein.
La finale, elle a été remportée par l'Américain Grant Holloway après l'abandon sur blessure du Jamaïcain Parchment et de la disqualification d'un autre Américain, Devon Allen, pour faux départ. Il n'y avait donc aucun Français en finale sur cette distance, mais on en aura un de représentant sur le 400 mètres haies. Le champion de France, Wilfried Apio, a atteint la finale en terminant deuxième de sa demi en 48 secondes 14 centièmes. Il a explosé son record personnel. La finale est à suivre mardi.
Et puis, un jeune demi-fondeur qu'on attendait avec impatience, on l'attend en vue de 2024, c'était Jimmy Gressier sur le 10 000 hier.
Oui, le seul Français qui était engagé sur cette distance, Jimmy Gressier, il se classe 11e. Le champion du monde en titre, Joshua Cheptegei, conserve sa couronne avec une course bouclée en 27 minutes, 27 secondes et 43 centièmes. Le Français s'est accroché dans les premiers tours avant d'être lâché à 1500 mètres de l'arrivée quand la course s'est emballée. Le nordiste termine 17 secondes derrière le vainqueur, mais pour lui, tout n'est pas à jeter dans cette course.
Je finis quand même assez fort. Je pense que c'est l'accélération progressive qui a fait mal. Tout simplement, le haut niveau mondial. Hein. On apprend le 10 000 mètres, ça reste l'une des disciplines les plus dures au monde et peut-être les plus dures dans le demi-fond. Va falloir continuer à progresser. Je reste satisfait quand même parce que je venais chercher une place dans le top 10. Je fais 11e, pas loin du top 10. Va falloir que je récupère et après j'arriverai à débriefer avec mes coachs. Je pense que vu que je suis un compétiteur, je suis pas totalement satisfait, mais en tout cas, je suis pas déçu de moi.
Et puis pas de médaille non plus malheureusement au saut à la perche féminin. Ninon Chapelle termine à la 11e place du concours, dominée par l'américaine Cathy Nadjot avec un saut à 4,85 m. L'autre française engagée, Margot Chevrier, termine non classée. Elle n'a pas réussi à franchir la barre des 4,45 m.
Exactement, et on en parle avec Ninon Chapelle qui est donc en direct avec nous depuis les États-Unis. Bah Ninon, ta réaction par rapport à ce concours, on rappelle 11e place, c'était un événement pour toi parce que tu revenais sur une compète internationale. Là, froid comme ça, comment tu l'analyses? Est-ce que tu es heureuse d'avoir atteint la finale? Est-ce que tu es déçue? Comment tu juges ta prestation, Ninon?
Ouais, bah c'était vraiment finalement un premier palier de validé en participant à ces championnats du monde quelques mois après la naissance de mon fils. Donc c'est vrai que c'était un premier objectif rempli en participant à ces championnats. Deuxième gros objectif rempli en me qualifiant pour la finale en deux sauts. Donc c'est vrai que j'ai réussi à, enfin j'ai recherché tout au long de cette saison de la constance pour finalement gagner en régularité, en confiance en moi, et puis voilà, retrouver des repères de compète. C'était un plaisir pour moi de retrouver la compète de très très haut niveau. Je suis contente d'avoir pu m'exprimer finalement, donner le meilleur de moi-même pour avoir aucun regret dans cette finale. Je pense que j'ai réussi à présenter de beaux sauts techniquement, d'être relâchée. Enfin, vraiment, j'ai pris beaucoup de plaisir. Maintenant, voilà, il manque encore des petits réglages. Le saut à la perche, c'est comme ça. On voit l'Australienne qui termine troisième, qui passe sa première barre au troisième essai. Voilà, ça reste une discipline particulière et on sait que tout peut s'arrêter très rapidement. Voilà, quand tout est calé, on peut vraiment s'éclater et aller le plus haut possible. Moi, il me manque, je pense, encore quelques petits réglages pour prendre de la hauteur, mais ça ne serait tardé.
Et oui, une drôle d'histoire. Ninon Chapelle, qui est donc en direct avec nous, record woman du saut à la perche depuis 2018, Monaco, et ce 4,75 m de franchi. Puis une drôle d'histoire avec Eugene en Oregon, puisque tu avais disputé les mondiaux juniors, et c'est là aussi que ton futur mari, Axel Chapelle, que l'on connaît bien également, avait été devenu champion du monde junior, et c'est avec lui donc que tu as eu le petit Oscar. Forcément, tu as fait une pause bébé pour donner naissance à ton fils, tu revenais à la compétition. L'Oregon, c'est une vraie histoire de famille pour vous, hein, pour toi et pour Axel. Hein.
Ouais, finalement, c'était mon premier grand championnat en portant le nom d'Axel. Donc, j'étais Chapelle pour la première fois. Donc, c'est vrai que c'était un plaisir. C'était finalement un petit peu de pression en plus parce que bah, voilà, lui, il a gagné les championnats du monde ici chez les juniors. Non, c'était beaucoup de plaisir pour moi de porter ce dossard et j'étais très contente de faire ça et dans ces conditions-là, franchement, voilà, je sais que j'avais un projet qui était un peu particulier. Certaines athlètes choisissent vraiment ces projets de maternité en fin de carrière. Moi, j'adore ce que je fais et j'ai envie de le faire le plus longtemps possible. Donc, je me suis dit, écoute, ce sera jamais le bon moment. Il y a des échéances tous les ans. Et voilà, le projet, il était plus fort que tout pendant cette période de pandémie. En se disant que bah on repousse pas à demain ce qui nous rend heureux et ce qui nous anime, donc j'ai aucun regret. C'est une prépa vers les Jeux de Paris qui s'annonce belle, et maintenant que j'ai rechaussé les pointes, que j'ai repris les perches sur des stades comme ça et dans des concours de ce niveau-là, j'ai clairement plus envie d'en partir.
Exactement. 19h53 sur RMC, Ninon Chapelle qui est en direct avec nous. Elle a terminé 11e du concours à la perche au championnat du monde de Eugene aux États-Unis, Stéphane.
Ouais, Ninon, tu nous dis que tu es satisfaite de ton concours. Est-ce que tu nous annonces un titre de championne d'Europe? Parce que quand je regarde le classement, les meilleures européennes, c'est une Slovène et une Grecque qui ont fait 4,70, qui ont terminé 4e et 5e. 4,70, c'est dans tes cordes. Ton record, c'est à 4,75. Est-ce que dans un mois à Munich, tu joues le titre de championne d'Europe?
Mais forcément, le but, ça sera d'aller le plus haut possible au championnat d'Europe. Moi, j'ai encore des petits réglages à faire. Honnêtement, comme on disait tout à l'heure, c'est du saut à la perche, ça peut s'arrêter vite, mais ça peut monter d'un seul coup aussi. Je suis consciente que j'ai retrouvé beaucoup de repères et que je suis tout à fait capable de passer des barres à 4,60 m, 4,70 m. Et ouais, effectivement, un podium, je pense que ça se jouera autour de ces hauteurs-là au championnat d'Europe. Et ça serait vraiment un très beau retour que d'aller en prendre une.
Ninon, le petit Oscar a un peu plus d'un an. Est-ce qu'il y a déjà un perchoir à la maison?
Non, alors le jardin, c'est pas possible chez nous. Après, c'est un petit garçon qui est clairement habitué au stade et qu'on prend plaisir à emmener avec nous dans nos sports. Et voilà, j'espère qu'il fera ce qu'il veut. Le moins de perches possible, parce que c'est vraiment une galère à transporter.
voilà. Ah ouais, c'est sûr.
Et justement. Elles sont pas rétractables, comme on le demande de temps en temps.
Oui, c'est vrai.
On s'étrimballe sur la voiture.
Ah ouais. Ça, c'est une sacrée organisation.
C'est une galère logistique. Ça, donc, j'avoue que si je peux le faire, si je le fais encore 10 ans pour moi, j'espère.
Bon, Ninon, mets-le sur le 10 000. C'est plus simple. La paire de basket, ça suffit.
Au sur le basket. Et Ninon, comment t'as géré justement cet éloignement avec ton fils pour préparer cette compétition? Est-ce que ça a été dur? Il y a eu des coups de blues ou t'étais concentré uniquement sur ta compète?
Bah, j'étais très concentrée et puis j'ai on a un staff super à l'entraînement, mais j'ai un staff super à la maison. Il a un papa extraordinaire, des grands-parents géniaux. Et c'est vrai que quand je pars, je suis complètement relâchée. Là, il était avec son papa pendant une semaine, avec ma maman pendant pendant 10 jours, là, avec mes frères. Je sais que bah, il est bien quand je suis pas là aussi. Donc voilà, ça me permet, moi, d'être à 200% dans ce que je fais quand... Mais quand je suis pas là, justement, je l'appelle. Il commence à comprendre un petit peu les appels, donc c'est rigolo. Et voilà, je pense que c'est important et j'ai la chance d'avoir une famille et un groupe qui est très présent autour de moi. Donc ça me permet d'être vraiment centré sur moi quand je suis dans ce genre de rendez-vous. Et voilà, je pense qu'on gère bien la chose et ça me permet d'être performante, d'être bien. Et je sais qu'eux, ils vont bien aussi. Donc voilà.
Merci Ninon Chapelle d'avoir été avec nous. Bon retour en France, évidemment, et on t'attend très vite, évidemment, dès les Europes qui auront lieu à Munich la mi-août. Voilà, ça va venir très vite. Donc on espère que tu pourras aller chercher, pourquoi pas, une médaille d'or européenne, championne d'Europe. Ça aurait de la gueule, effectivement. Merci Ninon.
C'est clair.
À bientôt sur RMC.
Merci à
Salut
vous.
Ninon.
À bientôt.
Et je rappelle juste le programme rapidement de la soirée, parce qu'on aura la finale du 3000 steeple avec Mehdi Belhadj, ça va être compliqué pour lui. On aura les séries du 200 mètres avec Mohamed Oufal et puis les qualifs du disque femme avec Mélina Robert Michon. On remercie Pierre Thévenet qui était là
Pierre.
Avec nous.
Merci à tous.
Merci Pierre, évidemment. À bientôt, Stéphane. Oui,
on aurait pu jouer ni oui ni non.
Excellent. Et oui, tu crois qu'elle est forte?
Je pense qu'elle est injouable.
Elle a dû s'entraîner. Merci Stéphane en tout cas d'avoir été là. On te retrouve demain et on passe la parole tout de suite à Nicolas Jamin. Est-ce qu'il est fort Nicolas Jamin? Oui, oui, non.
The best, Nico Jamin.
T'es bon Nico?
Champion 89, Memphis.
T'es vraiment bon?
Bien sûr, champion du monde.
Ouais.
Non, spécialité? Champion du bassin d'Arcachon.
Du bassin du Ferré à qui on pense, bien sûr. Actuellement.
Donc c'est pas ton truc le ni win?
Non, pas vraiment.
Voilà.
Ouais, bah, t'as perdu.
Mec a rien compris avant que ça monte au cerveau. France Islande, c'est pas un homme, hein. C'est un match de foot ce soir. La France qui affronte l'Islande, troisième match de la phase de poule de l'Euro féminin. On fera l'avant-match dans un instant. On parlera également du futur adversaire de l'AS Monaco en troisième tour préliminaire de Ligue des Champions. L'after est là jusqu'à minuit. Marco Verratti, 10 ans au PSG. Gros débat ce soir dans l'after. Conquis ou déçu par la décennie du petit hibou parisien. On en parlera ce soir dans l'after. À tout de suite sur RMC.